Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, bien chers amis, nous arrivons à la fin du temps après la Pentecôte et l'Église rajoute à la fin de ce temps, entre le 23e dimanche après la Pentecôte et le dernier dimanche après la Pentecôte, un certain nombre de dimanches mobiles. Le nombre de ces dimanches varie de 1 à 4 selon les années et la date de la fête de Pâques. Pour cette année, il n'y en a qu'un seul et l'Église va reprendre les textes du 6e dimanche après l'Épiphanie. Et donc sur votre missel, et si vous n'avez pas ces textes directement après le 23e dimanche après la Pentecôte, il faut regarder après Noël, au 6e dimanche après l'Épiphanie. Je voudrais vous parler de l'Évangile. Saint Matthieu, chapitre 13, qui est sur le royaume des cieux, le royaume de Dieu, le paradis. Et comme nous ne pouvons pas comprendre ici-bas les beautés, la gloire et la gloire extraordinaire du paradis, bien le bon Dieu est obligé de partir de faits concrets, de faits réels d'ici-bas, de choses réelles d'ici-bas pour nous faire comprendre quelque chose que nous ne pouvons pas encore comprendre complètement, mais au moins il veut que nous commencions déjà à méditer sur les joies du paradis. Si nous comprenons en partie au moins la gloire extraordinaire du paradis, nous serons vraiment poussés, que la grâce du bon Dieu, à vivre en état de grâce, à enlever déraciner nos vices, nos mauvaises tendances, pour nous mettre sur le chemin qui mène. Il y a donc deux paraboles qui se superposent. La première, c'est la parabole du royaume des cieux comparé à un grain de sénévé, un grain de moutarde. Et la deuxième parabole, c'est la parabole du royaume des cieux comparé au levain qu'une femme a pris et mêlé dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Je voudrais vous donner encore une fois le sens des pères. Le sens des pères, si on a, encore une fois, je vous l'ai déjà dit souvent, mais c'est tellement important à comprendre, si nous avons l'esprit des pères de l'Église, nous avons l'esprit de l'Église catholique elle-même. L'esprit de l'Église catholique elle-même. Donc il faut vraiment méditer sur cette chose-là. Essayons de voir un petit peu comment donc les pères de l'Église expliquaient ces deux paraboles sur le royaume des cieux à venir. Première parabole donc, c'est la parabole du grain de moutarde. Le grain de moutarde, qu'on appelle aussi le grain de sénévé, et le grain était la graine la plus petite du potager. Et cette graine va donc représenter le royaume des cieux. Voilà ce que nous disent les pères. Donc, écoutez bien, parce que ces textes des pères sont parfois un petit peu difficiles pour nous à comprendre. Pourquoi ? Parce que nous sommes habitués à aller à la surface des choses. Les pères de l'Église, au contraire, allaient dans les profondeurs pour nous faire comprendre la moelle même des choses. Voyez ? Nous sommes tellement habitués à cause de la télévision, de l'Internet et de la radio, toutes ces choses-là. Nous sommes tentés de toujours survoler les choses à toute vitesse, un peu comme un papillon, si vous voulez, qui survole un peu toutes les fleurs, mais qui ne s'arrête jamais sur une d'entre elles pour la butiner complètement, qui ne fait que s'arrêter quelques secondes sur chaque fleur, et donc il ne peut pas vraiment récupérer l'intégralité du sucre qui est dans chaque fleur. Alors, il nous faut donc nous habituer à ce langage des pères qui est un langage beaucoup plus profond. Les pères, comme contrairement aux hommes modernes, ne perdaient jamais de temps. Ils priaient, ils faisaient pénitence, c'est tout. Et donc, il faut reprendre ce langage des pères et puis essayer de se l'assimiler. Voilà donc ce que les pères disent concernant ce grain de sénévé. Ils disent que le grain de sénévé figure la ferveur de la foi, à cause de la vertu qu'on lui attribue d'expulser le poisson. Je ne sais pas si c'est vrai, mais les anciens utilisaient la graine de moutarde comme cataplasme sur les membres qui avaient été empoisonnés, entre autres, je crois, après les morsures de serpents ou des empoisonnements par les orties ou des choses comme ça. Et donc, ils mettaient un cataplasme de grains de sénevé, de graines de moutarde, parfois mélangées de l'argile, pour expulser le poison qui était passé dans les muscles. Et donc, cette vertu attribuée aux grains de sénevé d'expulser le poison représente l'expulsion de nos âmes de tous les dogmes pervers des hérétiques. Donc, lorsque nous sommes entourés d'hérétiques, c'est le cas pour nous aujourd'hui plus que jamais, nous sommes entourés des miasmes du démon, nous sommes obligés de les respirer littéralement par tous les sens, il nous faut nous protéger. C'est ce que disaient les francs-maçons du 19e siècle, en disant il faut que les catholiques respirent littéralement par leurs cinq sens, respirent l'esprit du monde, de liberté, d'égalité, de fraternité, pour que cette corruption rentre dans leurs âmes même, pour que nous puissions posséder leurs âmes. Alors, la graine de sénevé, disent les pères, est la plus petite des graines du potager. Ça explique que la prédication de l'Évangile est la plus humble de toutes les doctrines. Pourquoi? Parce qu'au premier coup d'œil, elle n'obtient pas la croyance due à la vérité en prêchant un homme-dieu, un dieu mort sur la croix, le scandale de la croix. Essayez, surtout par les temps qui courent, de prêcher ces choses-là. Les gens vont regarder avec des yeux tout ronds en disant, mais vous êtes complètement fou, pourquoi voulez-vous que j'aille suivre une doctrine aussi folle? Il faut rapprocher donc cette doctrine de la doctrine et des écrits des philosophes catholiques, des éclats de leur éloquence, de leurs discours étudiés. Et ainsi, vous pourrez connaître, disent les pères, combien la semence de l'Évangile est inférieure aux autres semences, surtout si on la compare au discours des grands philosophes païens. Mais si au contraire on passe à l'intérieur des choses, on va comprendre que cette petite graine de moutarde est au contraire d'une force extraordinaire. Pourquoi? Parce que la graine de sénevé est méprisée au début à cause de sa petite taille, mais nous dit l'Évangile, c'est bien la plus petite de toutes les semences, mais lorsqu'elle a cru, elle est plus grande que toutes les autres herbes et elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter sur ses branches. Alors voilà, voyons ce que disent les pères de l'Église sur ces passages. Les branches de l'arbre évangélique, qui sont sorties du grain de sénevé, figurent, disent les pères, la variété des dogmes de la foi catholique, sur lesquels chacun des oiseaux vient se reposer. Prenons donc, nous aussi, disent les pères, les ailes de la colombe. Et élevons-nous bien haut afin de pouvoir habiter sur les branches de cet arbre, nous construire un nid au milieu des vérités divines et nous hâter de fuir la terre et de gagner le ciel. Donc cet arbre qui monte à partir de la petite graine de sénevé qui monte vers le ciel, c'est le symbole de l'Église catholique. Donc, disent les pères, la prédication évangélique qui paraissait très peu de choses dans ses commencements, lorsqu'il fut semé, soit dans l'âme des fidèles, soit dans tout l'univers, n'a point produit de simples plantes, mais elle s'est élevée jusqu'à la hauteur d'un arbre, et sur les branches sont venus habiter les oiseaux du ciel, dire les âmes des fidèles ou les vertus qui sont consacrées au service de Dieu. Donc le Seigneur se compare en fin de compte lui-même à ce grain de sénevé qui est d'un goût très piquant, la plus petite de toutes les semences du potager encore une fois, et dont la force augmente lorsqu'il est broyé. C'est-à-dire que le grain de moutarde donne son goût et son piquant une fois qu'il est écrasé. Eh bien, cette force qui augmente après qu'il soit broyé, après que la graine soit broyée, représente évidemment notre Seigneur Jésus-Christ broyé sur la croix, qui humainement parlant est complètement détruit, mais qui par sa mort sur la croix va détruire le pouvoir du démon. Donc, ces branches de l'arbre, ce sont donc, disent les pères, les apôtres, qui par la puissance du Christ se sont étendus sur toute la surface du monde pour lui donner un doux ombrage. C'est sur ces branches que toutes les nations de la terre viendront dans l'espérance d'y trouver la vie et un lieu de repos, comme sur les branches d'un arbre, contre la violence des vents, des orages, c'est-à-dire les vents qui sont soulevés par le souffle du démon. Sur ces branches, nous dit notre Seigneur, viennent se reposer les oiseaux du ciel. En effet, les saintes âmes, qui s'élèvent au-dessus des pensées de la terre sur les ailes des vertus, se reposent des fatigues de la vie dans leur sainte conversation et dans les consolations dont elles sont la source. Lorsque ce grain était semé dans la terre, c'est-à-dire lorsque le Sauveur fut tombé au pouvoir de la multitude et qu'il eût été livré par elle à la mort et que son corps eût été enseveli dans le tombeau comme un grain qu'on sème dans un champ, il devient plus grand que tous les légumes et surpassa de beaucoup la gloire des prophètes. Vous savez que la graine qui est mise dans le champ ne va pas immédiatement aller placer dans le champ alors qu'il fait encore très froid dehors, souvent en plein hiver ou en fin d'hiver, parfois en début d'hiver, il faut que cette graine meure. Si le grain ne meurt, eh bien la graine ne peut pas germer au début du printemps et donner une plantule. Et c'est la même chose pour notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas voulu nous sauver sans d'abord mourir. Les pères ont une très belle phrase, ils disent « Le Christ était une graine quand il est mort, mais il est devenu un arbre après sa résurrection. » Donc il est à la fois un grain et à la fois une graine plutôt et à la fois un arbre. Vous voyez, c'est cette comparaison magnifique des pères qui explique qu'il est à la fois une graine à cause de l'humilité, de la bassesse de sa chair humaine, mais il est un arbre par le pouvoir de sa majesté. Et il est une graine parce que quand nous le voyons pendant sa passion, il n'y a en lui ni beauté, ni dignité, humainement parlant, mais il est un arbre parce qu'il va devenir plus beau, plus grand, plus noble que tous les enfants des hommes. Alors les branches de cet arbre représentent les prédicateurs sacrés. Alors voyons un petit peu comment justement les branches vont couvrir une surface de plus en plus grande et les oiseaux vont venir s'abriter dans ces branches parce que les saintes âmes qui sont élevées des pensées terrestres, si vous voulez, par leurs ailes, qui peuvent s'élever de la terre par leurs ailes, vont être raffermis, pouvoir se reposer après la fatigue de ce combat par lequel ces oiseaux s'élèvent du sol contre la loi de la pesanteur et vont pouvoir venir se reposer dans les branches des arbres pour obtenir les consolations. C'est le symbole donc de l'âme qui quitte le monde d'ici-bas par sa pénitence, par sa prière et qui prend refuge dans les contemplations de la divinité. Donc ainsi, le royaume des cieux est comme un grain de moutarde qui représente surtout l'église primitive. Au début, certains pères pensaient que même les oiseaux représentaient les anges parce qu'ils ont des ailes et ils sont très rapides. De la même façon, le grain de moutarde donc, représente cette force divine, encore une fois, parce qu'elle a un goût très... très, très enflammée, très fort, et elle représente l'efficacité de l'Évangile. Pourquoi ? Parce que les pères disent qu'il n'y a rien de plus fort au niveau des condiments que le grain ou la graine de moutarde qui va en quelque sorte envoyer un feu littéralement dans nos sens, surtout par le nez, dans le cerveau, on a l'impression d'avoir du feu dans la bouche. Pourquoi ? Parce que ce grain de moutarde représente encore une fois, c'est la doctrine de saint Augustin, la ferveur de la foi. Mais encore une fois, n'oublions pas que ce grain de moutarde ne peut donner sa force que s'il est écrasé. Donc, de la même façon, les prédications de l'Évangile ne pourra avoir une force convaincante que s'il est écrasé par les milliers d'oppressions et de persécutions que les apôtres et les successeurs des apôtres vont devoir souffrir. Et alors seulement, cette persécution va pouvoir donner une force comme un feu capable de tout transformer. Et ça, c'est très important à comprendre. Voilà pourquoi les pères disaient que le sang des martyrs est devenu la cause de la chrétienté, en quelque sorte, les racines de la chrétienté. Donc, de même que le grain de moutarde va donner un goût à la nourriture et la rendre facilement assimilable, de la même façon, donc, l'évangile rend attractif, en quelque sorte, attractive la vie difficile que nous suivons à l'exemple du Christ. Pourquoi ? Parce qu'elle va mettre en nous, cette graine de moutarde va mettre en nous l'espérance de la gloire future qui nous est promise. Ainsi, de la même façon, on pourrait réexpliquer sous d'autres termes, la foi chrétienne, la foi catholique, à première vue, apparaît comme quelque chose de petit et sans valeur, et qui ne manifeste pas son pouvoir, qui n'a aucun orgueil, aucune grâce extérieure. Mais aussitôt que nous commençons à être écrasés par les diverses tentations, immédiatement, cette foi chrétienne va manifester sa vigueur, sa netteté par rapport au démon, contre le démon, et va souffler en quelque sorte dans notre âme la foi en notre Seigneur. Va être comme le feu ardent de l'amour divin qui va transférer sa chaleur à ceux qui la consomment. C'est-à-dire que de même que la force du grain de moutarde va passer dans la nourriture, de la même façon, ce grain de moutarde qui représente justement les dogmes catholiques, en quelque sorte la ferveur de la foi, et bien ce grain de moutarde, cette force de la foi va venir en quelque sorte illuminer chacune de nos actions ici-bas sur le monde. Rappelez-vous les deux disciples, Saint Luc et Saint Cléophas, qui, sur la route d'Emmaüs, après la résurrection de notre Seigneur, vont rencontrer notre Seigneur, et comme ils ont perdu la foi, ils ne vont pas le reconnaître. Et ils vont dire après, une fois qu'il a disparu, nos cœurs n'étaient-ils pas brûlants en nous lorsque le Seigneur Jésus ouvrait nos cœurs aux Écritures. Donc, ainsi, le grain de moutarde, si vous voulez, va donner cette chaleur divine. Donc, l'Église catholique, la ferveur de la foi, va donner à nos membres, aux membres de l'Église catholique, cette force, ce pouvoir de brûler les péchés dans nos cœurs. Donc, cette chaleur divine va, si vous voulez, éliminer le froid perçant du monde et le froid des transgressions, disent les pères, le froid de la gelée des transgressions, c'est-à-dire des péchés. Une graine de moutarde, donc purifie, c'est aussi un autre sens du grain de moutarde, purifie les humeurs corporelles, disent les pères. Hein. De la même façon, la foi qui est représentée par cette graine de moutarde va mettre une fin à l'afflux des tentations, surtout des tentations de luxure. Ainsi, la personne malade est soignée par la tête. Pourquoi ? Parce que la foi, c'est notre tête spirituelle, le Christ, notre Seigneur. Et ce grain aussi nous donne la bonne odeur de la foi, selon la phrase de l'apôtre, nous sommes une saveur, nous avons une saveur, la bonne odeur du Christ, Dieu en notre âme. Alors tout ce que je viens de vous expliquer à propos des partir des pères, donc représente peut-être appliqué à nos âmes, à l'âme des fidèles, précisément surtout aux âmes des apôtres, mais aussi à nous qui devons être des apôtres aussi. Ça représente aussi la force des martyrs. C'est pour ça que l'Église adapte cette parabole à Saint Laurent. Et le jour de sa fête, c'est précisément cet évangile qui est pris, qui est choisi. Donc il faut nous comparer, il faut admirer plutôt le saint martyr Saint Laurent, qui est comme une graine de moutarde, une graine de sénévé, et malgré des souffrances abominables, va mériter de devenir la bonne odeur de la grâce du bon Dieu dans le monde par son martyre. De la même façon, il faut que nous, catholiques, nous ayons cette bonne odeur et que nous transmettions notre bonne odeur au milieu des miasmes sataniques du monde moderne. Si un catholique doit avoir cette bonne odeur spirituelle, c'est pour contrer la mauvaise odeur du démon, si vous voulez. Alors il y a une deuxième comparaison donc de notre Seigneur, je vais rapidement l'expliquer aussi, c'est la comparaison donc de la femme qui a pris et mêlé dans 3 mesures de farine le levain pour que la pâte soit lève. Donc Jésus dit toutes ces choses au peuple en parabole, ne parlez pas sans parabole afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète, j'ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Rapidement, je voudrais vous dire ce qu'expliquent les pères sur ce sujet. Je n'ai pas le temps d'aller en profondeur, mais ça va vous aider à comprendre la richesse des pères. Tout ce que je vous dis, je le lis à partir d'un cours que j'ai fait. Je vous donnerai peut-être un jour sur le site d'Anne Marie dont je m'occupe. Actuellement, je suis dans l'explication de la somme théologique de Saint Thomas. Mais quand j'aurai terminé ça, si Dieu veut, dans quelques années, je voudrais reprendre l'explication des évangiles. J'ai un cours tout près sur le sujet. Je suis allé chercher, surtout dans Cornelius à Lapidé, dans les œuvres de Saint Thomas d'Aquin, la chaîne d'or surtout, et dans Thyrier. Donc tous les commentaires des pères sur chaque verset de l'évangile. Comme ça me permet de préparer mes sermons à partir des pères. Donc qu'est-ce que disent les pères? Je vous lis les textes ici qui sont splendides. Le royaume des cieux est l'ensemblable au levain. C'est-à-dire que de même que le levain change et modifie une grande quantité de farine en lui communiquant sa saveur, ainsi vous changerez le monde entier, vous catholiques. C'est ainsi que vous-même vous triompherez de vos persécuteurs après vous êtes mêlés et confondus avec eux. Car de même que le levain, bien qu'il soit comme perdu dans la masse, n'est point détruit, mais communique insensiblement sa force à toute la pâte, ainsi en sera-t-il de votre prédication. Ne craignez pas donc les persécutions que je vous ai prédites, car elles ne serviront qu'à vous rendre plus éclatants et à vous faire triompher de tous vos ennemis. Donc le levain, c'est aussi la charité, parce qu'elle excite et qu'elle échauffe. La femme représente la sagesse. Ces 3 mesures de farine sont 3 choses qui se trouvent dans l'homme et qui sont exprimées par ces paroles, de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. Ou bien, disent certains pères, elles représentent les 3 récoltes qui donnent l'une 100, l'une 60 et l'autre 30 pour un. Il est dit que ce levain a travaillé jusqu'à ce que toute la pâte soit levée, parce que la charité cachée dans notre âme doit s'y développer, jusqu'à ce qu'elle ait communiqué sa perfection à l'âme tout entière, ce qui se commence dans cette vie et s'achève dans l'autre. Cette femme qui prend du levain et la met dans 3 mesures de farine, c'est la prédication des apôtres, ou l'Église formée des différentes nations. Elle prend le levain, c'est-à-dire l'intelligence des Écritures, elle le cache sous 3 mesures de farine. L'esprit, l'âme et le corps, afin de les ramener à l'unité et qu'il n'y ait entre eux aucun désaccord. Cette femme, c'est aussi l'Église, nous disent certains pères, qui a mêlé la foi à 3 mesures de farine, c'est-à-dire à la croyance dans le Père, dans le Fils, dans le Saint-Esprit. Et lorsque ce précieux levain de la foi a fait fermenter toute la masse, elle nous conduit à la connaissance non pas de 3 dieux, mais d'un seul et même Dieu. Ce mélange, le vin mélangé avec 3 mesures de farine, c'est-à-dire mêlé dans des proportions égales à la loi, au prophète et à l'évangile, ne fait qu'une seule chose de ces 3 éléments, parce que la propagation de l'évangile vient accomplir les prescriptions de la loi et la prédication des prophètes. Et on pourrait, je n'ai pas le temps de tout vous expliquer, parce que sinon ce sermon va durer 3 quarts d'heure, ça serait trop long. Il y a encore d'autres choses. C'est Saint-Hilaire de Poitiers qui dit que la grâce de l'évangile était cachée, comme le levain est caché dans la pâte, la grâce de l'évangile est cachée dans la loi, dans les psaumes, dans les prophètes. Et maintenant, elle apparaît par la foi, l'espérance et la charité, et l'amour de la Sainte Trinité. telle façon que ce que la loi avait constitué, ce que les prophètes avaient annoncé, ben, va être rempli par l'arrivée de l'évangile. Et donc ces trois mesures de levain représentent la création, la rédemption et la glorification. Saint Bernard, lui, dit que ces trois mesures de farine représentent aussi la très sainte Vierge Marie, qui a uni dans son sein les trois natures du Christ, c'est-à-dire l'âme, le corps et la divinité. On va avoir une hypostase, une personne, la personne du Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Je voudrais finir avec cette phrase magnifique. Cette femme qui mêle le ferment divin à la masse de l'humanité, c'est la très sainte Vierge Marie. Comme la mort était venue par Ève, la vie vient à tous par Marie. Elle fait son œuvre au-dedans de la maison, car elle appartient elle-même à cette humanité à qui elle donne Dieu. Cette femme, dit saint Ambroise, c'est aussi l'Église. L'Église qui doit faire pénétrer Jésus au-dedans de notre âme jusqu'à la chaleur de la sagesse céleste, jusqu'à ce que la chaleur de la sagesse céleste remplisse les parties les plus secrètes de notre cœur. La mission propre de l'Église est de faire pénétrer Jésus, ce ferment divin, dans la vie de l'humanité. Alors posons-nous cette question, est-ce que par mon exemple, par ma façon de me comporter en famille, dans le milieu professionnel, avec les gens que je rencontre à droite et à gauche, est-ce que je fais pénétrer Jésus, ce ferment divin, dans la vie des gens qui sont autour de moi? Est-ce qu'ils peuvent voir derrière mon humanité notre Seigneur Jésus-Christ qui resplendit dans mon âme par la grâce sanctifiante? Voilà donc, mes bien chers frères, mes chers amis, ce que nous devons demander au bon Dieu par l'intermédiaire de la très sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.